Sermon 20. Concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 13. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles, et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. À l'approche des fêtes, passez de bonnes fêtes. J'espère que ceux qui visitent leur ville natale pendant les fêtes feront un bon voyage aller et retour en paix. Je prie pour qu'ils protègent les véhicules qui vont et viennent et qu'ils vous protègent comme la prunelle de ses yeux de tout risque d'accident. Nous devons également prier pour ce pays en lui demandant de le protéger afin qu'il ne soit pas entraîné dans une guerre. Car si une guerre éclate, nous nous retrouverons dans une situation où il sera difficile de prêcher l'Évangile. En fait, celui qui protège ce pays, c'est aussi Dieu. J'attends que pendant les fêtes, les frères et sœurs prêchent la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à leur famille, afin qu'il y ait la grâce de recevoir l'effacement des péchés. S'il y a des choses délicieuses après avoir passé les fêtes, s'il vous plaît, ne les mangez pas tout seul, mais partagez-les avec les frères et sœurs qui ne peuvent pas se rendre dans leur ville natale. S'il vous plaît, ayez des yeux qui veillent sur nos frères et sœurs. Devons-nous manger les choses sacrifiées aux idoles ou ne le devons-nous pas? Alors que nous accueillons les fêtes, j'aimerais parler des choses sacrifiées aux idoles. Tout le monde, devons-nous manger les choses sacrifiées aux idoles ou ne devons-nous pas les manger? Nous ne devons pas les manger. Quel genre de foi avons-nous? Quand les fêtes arrivent, les gens du monde célèbrent des rites ancestraux en offrant des sacrifices devant de faux dieux. Toutes choses sont pures et ce n'est pas parce qu'elle a été offerte à une idole que la nourriture elle-même est souillée. Cependant, l'apôtre Paul traite de cette question. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Bien que nous puissions manger certaines nourritures, il y a aussi des choses que nous ne devrions pas manger pour le bien de la conscience de l'autre personne. Cela signifie que la connaissance rend une personne arrogante, mais que l'amour édifie et apporte un bienfait. Lorsque les familles se réunissent pour les fêtes, il y aura parmi elles ceux qui croient en Jésus et ceux qui n'y croient pas. Dans des moments comme celui-ci, que devrions-nous faire, nous chrétiens? Il est permis de manger la nourriture issue des rites ancestraux. Cependant, lorsque les non-croyants regardent ceux qui croient en Jésus, ils savent que l'on ne doit pas se prosterner devant les idoles et que l'on ne doit pas manger les sacrifices offerts aux idoles. Parce qu'ils le savent ainsi, cela signifie que nous ne devons pas en manger. Dans mon cas, les gens autour de moi savent tous que je suis pasteur. Il y a une coutume qui consiste à partager les restes de nourriture avec les voisins après avoir célébré des rites ancestraux chez soi. Et les choses qui ont été placées sur la table des rites ancestraux en portent les marques. En fait, en tant que nourriture, il est permis d'en manger. Cependant, parmi nous, il y a ceux dont la foi est faible. Pour une personne qui sait seulement qu'elle a reçu l'effacement des péchés et qu'elle ne doit pas servir les idoles, si ceux qui l'ont précédée dans la foi disent que c'est acceptable et mangent ensemble, la peur surgit dans son cœur et sa conscience est souillée. En pensant, Il est permis de manger de la nourriture offerte aux idoles. Si elle va un peu plus loin, cela la conduira à penser « Il est permis d'offrir des sacrifices aux idoles » et « Il est permis de se prosterner devant les idoles ». Cela signifie que bien qu'il soit permis de manger, nous ne devons pas manger pour le bien de la foi de l'autre personne. La pomme elle-même, qui a été placée sur la table des rites ancestraux, n'est pas le diable. Parce que c'est un fruit donné par Dieu, il est permis de le manger, mais pour le bien de la conscience et de la foi de l'autre personne, il y a des moments où il est permis de manger, et des moments où nous ne devons pas manger. Lorsque des personnes nées de nouveau et des personnes qui ne sont pas nées de nouveau sont réunies, nous ne devons pas manger la nourriture de la table des rites ancestraux avec elles. Si nous mangeons, cela les fait trébucher. Elles considéreront le christianisme comme une religion parmi tant d'autres. Et exactement la même chose que de croire en des dieux divers. Si cela se produit, cette personne considérera qu'il n'y a pas besoin de croire en Jésus. Elle ne croira pas et finira par aller en enfer. La conclusion est qu'il est bon de ne pas manger. Alors que nous accueillons les fêtes, vous pourriez avoir cette pensée « Tout le monde mange, alors comment puis-je ne pas manger tout seul ?» Dans ces moments-là, ne mangez tout simplement pas ce qui a été placé sur la table des rites ancestraux. Et parce que vous croyez en Jésus, vous pouvez demander et manger la nourriture qui n'a pas été placée sur la table des rites ancestraux. Lorsqu'ils célèbrent le rite ancestral, il n'y a pas besoin de s'asseoir avec eux. Vous pouvez vous joindre à eux au moment de manger la nourriture. Cela signifie que nous ne devons pas manger afin de permettre aux âmes de recevoir le salut. L'apôtre Paul dit ceci, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8, versets 12 à 13. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu qui était la Sainte Trinité. En regardant à partir du verset 5, « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 5 à 6. À proprement parler, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu qui est devenu la Trinité, c'est-à-dire Dieu qui est devenu notre Père, Jésus qui est devenu notre Sauveur et le Saint-Esprit qui nous aide. Il n'y a que ce seul Dieu trinitaire. Par conséquent, celui qui connaît le fait que seul Dieu est le vrai Dieu n'est pas grandement ébranlé par la question des choses sacrifiées aux idoles. Corinthe est une ville portuaire. Les villes portuaires servent beaucoup le dieu roi dragon des mers. Elles offrent des sacrifices devant ce dieu en plaçant toute la nourriture sur un autel énorme, puis les gens la portent au marché et la vendent. À cette époque, la question de savoir si les croyants pouvaient l'acheter et la manger, ou s'ils ne devaient pas la manger, est devenue un problème. De quel pays proviennent les rites ancestraux offerts aux ancêtres ? Les rites ancestraux tirent leur origine de l'idéologie confucéenne visant à honorer ses parents. C'est une tradition confucéenne qui enseignait indirectement cet esprit par la méthode de la célébration de rites ancestraux devant les tombes des ancêtres afin de transmettre aux descendants l'enseignement d'honorer les parents vivants. En dressant la table des rites ancestraux, on enseigne « Même après le décès de ton grand-père, je le sers ainsi. En voyant cela, tu devrais bien me servir. » C'est un processus éducatif qui enseigne cela. À l'origine, les rites ancestraux offerts aux ancêtres ont pris naissance dans le confucianisme. Confucius les a créés avec de bonnes intentions, mais les gens s'en sont servis et les ont utilisés dans le but d'éduquer leurs enfants. Ainsi, on dit que s'ils dressent une table de rites ancestraux pour commémorer le jour du décès des ancêtres, les âmes viennent et mangent. Cependant, en réalité, nos ancêtres ne viennent pas visiter la table des rites ancestraux ce jour-là. Les croyants chrétiens consolident leur réconciliation avec Dieu en disposant de la nourriture devant Dieu et en offrant un culte. Pendant le culte, ils offrent des cantiques et invitent un pasteur à prêcher la parole. Pensez-y un instant. Si nos ancêtres étaient vivants en ce moment, que souhaiteraient-ils de nous ? Ne souhaiteraient-ils pas que nous croyions en Jésus, que nous recevions l'effacement des péchés, que nous servions Dieu et qu'ensuite nous venions devant le Seigneur, offrir un culte avec exactement ce genre de cœur et le service commémoratif de style chrétien. Si nous disons que nous ne pouvons pas manger la nourriture des rites ancestraux parce que nous croyons en Jésus, les membres non-croyants de la famille se mettent parfois en colère. Cependant, nous devons vivre selon la conscience de la foi. La charité édifie. Avoir une connaissance correcte est important. Cependant, la connaissance seule n'apporte pas de bienfait à une personne. Nous devons aussi savoir ensemble ce qui est véritablement bénéfique. Lorsque le fait de manger la nourriture des rites ancestraux pèse sur votre conscience, vous pouvez simplement demander et manger la nourriture qui n'a pas été placée sur la table des rites ancestraux. Ce que nous devons savoir, c'est le fait que toutes choses sont pures et propres. Cependant, nous ne mangeons pas afin de garder la foi en laquelle nous croyons et pour les âmes qui n'ont pas encore été sauvées du péché. Manger cette nourriture ne devient pas un péché, mais nous ne mangeons pas par égard pour l'autre personne. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8 verset 9. La connaissance enfle mais la charité édifie. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 8 verset 1. En vous attachant à cette parole, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes.